Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. On est bien loin en ce mois de juillet 2019 de l'atmosphère qui prévalait il y a 4 ans au moment de la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, un accord conclu après des années d'efforts diplomatiques qui prévoyait la limitation du programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions internationales contre ce pays. Les États-Unis se sont unilatéralement retirés du dit accord en mai 2018, ont relancé en la durcissant leur politique de sanctions à l'encontre de Téhéran. En mai dernier, l'Iran annonçait de son côté qu'il commençait à s'affranchir progressivement de certains de ses engagements pour forcer ses partenaires à agir pour sauver l'accord. Lesquels partenaires sont l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine? Et depuis, les incidents ne cessent de se multiplier, signe de la montée des tensions. Arrestation d'une chercheuse franco-iranienne du Centre de recherche internationale de Sciences Po début juin à Téhéran. Dans le détroit d'Ormuz, acte de sabotage et entrave au passage de navires. Attaque en mer d'Oman, également près de Riyad en Arabie Saoudite, tir de roquettes en Irak, drone américain abattu, volonté très forte de part et d'autre de ne pas céder, de faire monter les enchères, regard sur la crise qui monte entre les États-Unis de Donald Trump et l'Iran. Peut-on et comment en sortir, à supposer qu'aucun ne veuille la guerre? Nos invités, Azadeh Kian, professeur de sociologie politique à l'Université Paris Diderot Paris 7 et chercheur associé au CNRS, auteur de Femmes et pouvoir en islam aux éditions Michelon. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Razou, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et auteur de Guerre Iran-Irak aux éditions Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Queville, chercheur à l'IRIS. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quel regard portez-vous chacun sur la situation actuelle? De quoi est-on le plus proche? D'une sortie de l'accord par Téhéran? D'une reprise des négociations? D'une confrontation importante? Azadeh Kian.
Oui, écoutez, je crois que les Iraniens, on le sait, ont décidé finalement de ne plus respecter de façon très limitée, faut-il le dire, l'accord sur le nucléaire en augmentant par exemple le pourcentage de l'enrichissement de l'uranium qui passe de 3,67 à l'heure actuelle à 4,5, tout en annonçant qu'ils vont pas dépasser le seuil de 5% parce que ils veulent pas non plus sortir de l'accord sur le nucléaire, ils ne veulent pas non plus créer davantage, je pense, d'ennemis au sein des pays signataires de l'accord sur le nucléaire. Mais effectivement, ils ont attendu, vous l'avez rappelé, depuis l'accord sur le nucléaire, la signature de l'accord sur le nucléaire en juillet 2015, la levée des sanctions internationales en janvier 2016. Rien ne s'est passé réellement en Iran. Les promesses des signataires de l'accord sur le nucléaire n'ont pas été tenus. Donc, les Iraniens n'ont pas obtenu des contreparties et c'était les seuls à respecter l'accord sur le nucléaire. Et effectivement, les États-Unis, après l'élection de Trump, sont sortis de cet accord. Donc, c'est une façon de dire, en particulier aux Européens, mais aussi aux autres signataires, qu'ils ont suffisamment attendu et qu'ils ont des capacités de revenir à 20% d'enrichissement de l'uranium, qui était le cas, rappelons-le, avant la signature de l'accord. Mmh. Donc, c'est une façon de faire pression sur les signataires de l'accord. Et d'ailleurs, on constate que ça a un peu marché, puisque les Européens, effectivement, se sont dépêchés pour dire qu'il faut effectivement mettre en place le plus rapidement possible INSTEX, ce mécanisme de troc. Et le président Macron, on le sait, mais Pierre Azou nous en dira davantage, a accepté de faire l'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis. Et si je me réfère aux propos récents de Trump, eh bien, il pense qu'il faut aller vers moins de tensions avec l'Iran et aussi la voie diplomatique qui sera de nouveau réouverte entre l'Iran et les États-Unis, ce qui en soi une bonne nouvelle. Donc on est face à la baisse des tensions entre ces deux pays dont on a vu récemment avec l'attaque et la destruction du drone américain par les gardiens de la révolution iranien. Et à partir de là, je pense que les Iraniens ont montré leurs muscles aussi à leur façon et seraient davantage prêts pour aller vers des négociations avec les États-Unis si les États-Unis États-Unis respectent les Iraniens et acceptent de réentrer dans l'accord sur le nucléaire et aussi lever les sanctions qu'ils ont imposées à l'Iran. Donc, si vous voulez, récemment, depuis l'attaque de ce drone, on voit effectivement que la diplomatie est de nouveau de retour.
Alors, beaucoup de points évoqués à l'instant par Azadekian. Je me tourne vers vous, Thierry Coville et Pierre Razou. Donc, point numéro un, l'Iran ne veut pas sortir de l'accord. Beaucoup de focus porté sur les Européens qui n'ont pas manqué de déplorer tout de même la décision de Téhéran de produire désormais de l'uranium enrichi à au moins 4,5%. Est-ce que les Iraniens n'attendent pas trop des Européens? Baisse de la tension et les États-Unis qui accepteraient de revenir dans l'accord. Est-ce qu'on peut imaginer les conditions dans lesquelles les États-Unis accepteraient de le faire, Pierre Razou?
Oui, je crois qu'en fait, ce qu'il faut intégrer et comprendre, c'est qu'on a deux logiques antagonistes. Il y a une logique rationnelle où, des deux côtés, les Iraniens, le pouvoir iranien et Donald Trump souhaitent négocier. Même les Iraniens, même le régime, Rouhani le dit, Zarif le dit, il dit « je suis prêt à négocier demain, n'importe où, n'importe quand, à partir du moment où on me laisse revenir à la table de négociation la tête haute ». Et je crois que c'est ça tout le débat, c'est-à-dire que on est dans cette logique rationnelle d'un côté et dans une logique totalement irrationnelle de l'autre, où on est toujours dans le énième épisode de la vendetta historique entre l'Iran et les États-Unis, ou les États-Unis et l'Iran, et où finalement, dans cette relation qui est, on va dire, si vous me passez le terme, pourrie depuis 1979 et la révolution islamique, la crise des otages, la crise de l'ambassade, etc., chacun, les Américains attendent des Iraniens qu'ils viennent s'excuser en disant « nous avons été de mauvais garçons et maintenant on veut repartir sur de nouvelles bases », et où les Iraniens évidemment ne sont pas prêts à s'excuser. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est le même pouvoir aujourd'hui qui est aux manettes, qui a fait la révolution, qui a fait la guerre en Irak. C'est-à-dire c'est comme si c'est demandé à un grand-père de venir s'excuser pour ce qu'il a fait quand il était jeune. C'est en général assez compliqué. Donc on est dans une logique où pragmatiquement et rationnellement tout le monde veut négocier. Donald Trump veut un deal pour des raisons d'ego personnel, parce qu'il a dit « moi je suis capable d'obtenir un accord meilleur que celui d'Obama », à la limite, même si en réalité il est moins bon, mais peu importe, à partir du moment où il est estampillé Donald Trump, il sera forcément meilleur de son point de vue. Donc il veut une négociation directe avec les Iraniens et le régime iranien, mais en même temps, il ne cesse de les humilier et de les rabaisser. Et donc, évidemment, le régime iranien, ni nous, on veut bien négocier, mais il faut nous permettre de rejoindre la négociation la tête haute. Donc, on est dans cette relation totalement irrationnelle, passionnelle, émotionnelle. Et à côté de ça, vous avez les relations entre l'Iran et, comme le disait Azadekian, le reste du monde, c'est-à-dire en tout cas les autres acteurs de l'accord nucléaire, donc Europe, Chine et Russie, qui eux, au contraire, cherchent par tous les moyens à conserver une relation pragmatique, rationnelle avec Téhéran, non passionnelle. Et évidemment, ils ont beaucoup de mal parce que dès que vous mettez un petit peu d'huile sur le feu, ça déborde de l'autre côté.
Alors, je voudrais que vous relanciez Thierry Coville sur la question de Donald Trump. Est-ce que on a bien entendu et compris de ce que vient de dire Pierre Razou que le président américain voulait, d'une certaine manière, alors défaire ce qu'Obama a fait, ça par principe, pour ensuite revenir pour éventuellement un accord moins satisfaisant que ce qui avait été signé auparavant?
Oui, alors d'ailleurs, ça a été dans un des des messages qui n'auraient pas dû être diffusés de l'ambassadeur britannique aux États-Unis. Il notait qu'une des raisons pour laquelle, enfin ce que tout le monde savait, laquelle Trump était revenu sur l'accord, c'était aussi parce que c'était la principale réussite diplomatique d'Obama. Donc ça joue beaucoup. Ce que je trouve intéressant, ce qui se passe actuellement, c'est que on voit bien un scénario qui pourrait permettre de sortir de la crise, comme vient de le décrire Azadeh, c'est-à-dire les États-Unis acceptent, à mon avis, de lever les sanctions ou de diminuer une partie des sanctions importantes qu'ils ont remis en place. Et en même temps, alors on parle éventuellement de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies, il y aurait une rencontre, alors fortuite ou pas,
en septembre
2019 entre Rouhani et Donald Trump. Et qu'est-ce qui se dirait dans la rencontre, à la limite si on se réfère à ce qui s'est passé entre Donald Trump et Kim Jong-un, Corée du Nord, peut-être simplement ce qui compte en fait, si on est un peu cynique, c'est la photo quoi. Et puis un contenu où chacun pourrait dire, les Iraniens pourraient dire, regardez, les États-Unis finalement acceptent de revenir dans l'accord. Et puis les États-Unis pourraient dire, ben voyez, on recommence à renégocier, parce qu'à mon avis, ça va pas se faire tout de suite. Hein, quand on connaît les Iraniens, déjà avec de la bonne volonté d'Obama, meilleure volonté du monde, ça a pris quoi, quasiment 2 ans de négocier simplement le nucléaire. Alors vous imaginez là l'objectif des États-Unis. Excusez-moi, je rigole parce que c'est presque ridicule. Il veut négocier un nouvel accord sur le nucléaire, la présence iranienne dans la région et le programme balistique iranien. Donc régler ça, en, surtout avec Trump, qui est pas forcément vraiment, d'après ce que j'ai compris, peut-être Pierre Confer, un homme de dossier. Donc voilà, mais si on est cynique, il faut une photo, quoi. Le problème, c'est que de ce que je connais l'Iran, même la photo, ils ont du mal, quoi. Je veux dire, les Américains sont allés tellement loin, notamment Trump. Il a tellement été loin dans la critique de l'Iran. Il a quand même demandé plusieurs fois de détruire l'Iran. Et tout d'un coup, il dit, je veux pas de changement de régime. D'accord, mais enfin, il l'a répété combien de fois? Il a des conseillers qui sont pour un changement de régime. Il vient de sanctionner le guide. Il parlait de sanctionner le ministre des Affaires étrangères. Donc, je vois bien qu'en Iran, comme traditionnellement depuis la Révolution, on a deux aspects de la diplomatie. Il y en a un qui dit on monte les muscles, l'autre aspect qui dit on est toujours prêt à négocier. Donc cette opportunité existe. Voilà, ma réponse, ce serait qu'il faudrait qu'il y ait des gestes significatifs. La seule voie que je vois pour que ça puisse arriver, des gestes significatifs des États-Unis qui réduisent déjà beaucoup les sanctions. Là, il pourrait y avoir un accord de l'Iran pour éventuellement qu'il y ait cette photo. Mais pour l'instant, voilà, si on essaye d'être le plus lucide possible, je vois pas trop les États-Unis faire ça. C'est pour ça que ce scénario, c'est bien qu'il y ait une diminution des tensions. Cette photo, je la sens pas trop, quoi.
Alors, je vous passe la parole, bien sûr, à Zadekian. Est-ce qu'on peut voir dans l'attitude de Donald Trump aujourd'hui vis-à-vis de l'Iran une prise de conscience que finalement cette pression accrue avec les sanctions fait le jeu des gardiens de la révolution?
Fait le jeu des ultra-conservateurs de façon générale, qui vraiment, depuis les quelques derniers mois, se sont de nouveau instaurés ou installés dans l'ensemble des institutions. Là, par exemple, le Conseil des gardiens vient d'être renouvelé, le gardien de la Révolution vient d'être renouvelé. C'est des personnalités extrêmement ultra qui ont été nommées par le guide. On voit aussi dans le Conseil de discernement, l'Assemblée des experts. Enfin, ce qu'on constate effectivement, c'est que ça a renforcé les ultra-conservateurs dans les institutions. Et puis, on constate aussi que le gouvernement Rouhani a été largement affaibli de ce fait, parce que Rouhani avait fait, trop de confiance à la fois à l'Europe, mais aussi aux États-Unis, bien évidemment, n'a pas reçu grand-chose en contrepartie. En revanche, je suis d'accord avec Thierry Coville, mais je pense que Pompeo, le ministre américain des Affaires étrangères, a annoncé très récemment vouloir parler à l'Iran, vouloir être en Iran, c'est-à-dire à travers les médias iraniens. Et donc, il souhaite faire ce que M. Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, a fait récemment en s'adressant à CNN et d'autres médias américains pour parler au peuple américain, à l'opinion publique américaine, et à travers l'opinion publique américaine aux décideurs américains. Eh bien, Pompeo propose aux médias iraniens de faire pareil. Ça, c'est un pas en avant de la part de Pompeo, qui effectivement, comme nous l'a rappelé Thierry, aussi participé à on va bombarder l'Iran, on va anéantir l'Iran, etc. Donc tout ça sont des signaux de la part des États-Unis d'une volonté de réduire en tout cas la tension avec l'Iran, pour une simple raison que les États-Unis n'ont pas les moyens d'une guerre, hein. Le grand spécialiste est avec nous, mais une guerre comme ils en ont eu en Irak, par exemple, et que Trump a déjà commencé sa campagne électorale aux États-Unis, et parmi les promesses électorales de Trump, il y avait que les États-Unis ne veulent plus s'engager dans une nouvelle guerre. Donc, je pense que pour l'ensemble de ces raisons, à la fois internes et aussi extérieures, régionales, internationales, Trump aussi souhaiterait parvenir à un accord minimal avec l'Iran avant la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. Ça sera déjà ça, et ça sera à ses yeux effectivement une victoire, même s'il s'agit d'un accord minimal. Donc je pense qu'on va vers cette solution, et de plus en plus, hein, sauf que les États-Unis ne sont pas seuls. C'est-à-dire qu'il y a l'Arabie Saoudite, leur allié dans la région, autant les Émirats Arabes Unis aussi, très récemment, ont envoyé leur émissaire en Iran. On dit vouloir eux aussi réduire les tensions dans la région du Golfe Persique. Autant on a vu le Koweït, autant on l'a vu l'Oman aussi, qui se sont proposés comme intermédiaires entre l'Arabie Saoudite, l'Iran, les États-Unis, etc. L'Arabie Saoudite continue quand même une politique très belliqueuse par rapport à l'Iran. Peut-être qu'ils ont leurs propres raisons, puisque les Houthis de Yémen continuent à bombarder l'Arabie Saoudite, visiblement avec les armements iranien. Mais en tout cas, je veux dire qu'il ne suffit pas que Trump et l'Iran se mettent d'accord. Je pense qu'au préalable, et c'est quelque chose peut-être de plus facile à atteindre, c'est d'emmener les Saoudiens et les Iraniens de se voir et de se parler.
Alors, beaucoup de choses là aussi. Pierre Razvou, je me tourne vers vous. On a bien compris, hein, l'administration américaine plutôt divisée. Alors, on voit Mike Pompeo, d'une certaine manière, le secrétaire d'État américain, patron aussi de la CIA, et le secrétaire à la Sécurité nationale, John Bolton, qui soutiennent une politique de changement de régime. De l'autre côté, effectivement, le département de la défense qui s'y oppose. Azadeh Khan disait à l'instant que les États-Unis ne voulaient pas d'une nouvelle guerre. L'Iran non plus.
Non, c'est clair. Et les Iraniens le disent sur tous les tons. Ils ont déjà donné, ils ont fait la guerre en Irak. Ils connaissent très bien le prix qu'une guerre majeure entraînerait dans la région. Juste une anecdote, je me rappelle une fois où j'ai pu discuter avec des généraux Pazdaran de très haut rang qui me disaient « Bien sûr, on est patriote et on se défendra et on ripostera si on est attaqué. » Mais franchement, on est fatigué de la guerre, on a nos âges, on veut plus que nos enfants connaissent ça. Donc il y a une volonté d'apaisement de ce côté-là, c'est sûr. Mais en même temps, il y a une volonté de très fort nationalisme, entre guillemets, de revanche par rapport aux États-Unis. Donc là aussi, je reviens sur le côté passionnel. Alors je serais peut-être un petit peu moins optimiste que Thierry et Azadeh. Tout indique logiquement que la négociation devrait ou pourrait avoir lieu. Mais je pense plutôt qu'on va vers une sorte de statu quo. C'est-à-dire que oui, ni l'Iran, ni les États-Unis ne veulent la guerre, donc je pense pas qu'il y en ait. Chacun va faire ce qu'il faut pour retenir ses troupes. D'autant qu'aux États-Unis, par exemple, le Congrès a multiplié les démarches pour montrer non, Trump ne pourra pas lancer le pays dans une guerre sans notre aval. Le turnover au Pentagone de, à chaque fois, nouveau secrétaire d'État montre que clairement les forces américaines ne sont pas prêtes pour ça, même si elles s'y sont préparées. Donc c'est pas l'ambiance, c'est pas l'état d'esprit. Par contre, les Iraniens comprennent bien justement qu'ils sont de redoutables négociateurs, donc ils savent très bien que, comme les États-Unis ne sont pas prêts à faire la guerre, et surtout comme l'administration américaine, Trump le premier, ne comprend pas qu'en fait, il ne faut pas s'adresser à Rouhani ou à Zarif, il faut s'adresser à Khamenei, au guide. Et que Trump maintient sous pression et sous tension et sous sanction le guide. Donc en fait, le message, tel que je le comprends, du pouvoir iranien, c'est de dire aux Américains, tant que vous n'aurez pas fait un signe manifeste et concret, et bien sûr, la levée des sanctions fait partie de cela, mais aussi des gestes politiques, par exemple, sanctionner et, si vous me passez l'expression, virer John Bolton. Mike Pompeo est sur un registre différent. C'est à quelqu'un de très réaliste qui voit là où va le vent et qui s'adapte au sens du vent. Donc s'il voit que le vent de Donald Trump va dans le sens d'une négociation, et c'est ce qui se passe actuellement, bah, il ira dans le sens d'une négociation. Donc on va dire il suit le courant ambiant. Mais donc, si les États-Unis ne font pas des gestes concrets, par exemple, retendant la main cette fois-ci non plus à Rouhani ou à Zarif, c'est-à-dire le président ou le ministre des Affaires étrangères, mais s'adresse directement à Khamenei, je vois pas de raison pour lesquelles l'Iran accepterait de négocier. Donc, ce qui revient toujours à la même question, c'est-à-dire faire des gestes qui permettent aux Iraniens de revenir la tête haute à la table de la négociation. Tant qu'ils font pas ça, à mon avis, on aura un statu quo. Et le statu quo peut durer un certain temps. On voit aussi que Trump a ses soucis avec le camarade Kim en Corée du Nord et que après les belles photos, il est confronté au poids des mots et à la réalité. Il va donc en effet se dire bon bah si je fais pareil avec l'Iran, je vais me faire humilier deux fois, donc ça va pas marcher. Donc je suis beaucoup plus réservé sur la tenue. Alors qu'il y ait de réelles négociations, on sait par exemple, enfin c'est passé en source ouverte, on sait que les Iraniens et les Américains ont discuté à Erbil en Irak, dans la partie kurde de l'Irak. Donc on sait qu'il y a des canaux ouverts. Mais après, est-ce que ça va réellement mener sur quelque chose? Je ne sais pas. Et je pense que quant à Erbil, justement, les Américains ont vu le petit-fils de l'ayatollah Khomeini, c'était aussi pour faire passer le message qu'il faut parler au guide et il faut s'adresser au guide.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités. Je vous passerai la parole en premier, Thierry Coville. Oui. Nous retrouvons Azadeh Khan, Pierre Razvou et Thierry Coville après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la crise entre les États-Unis et l'Iran. Nous retrouvons nos invités. Azadeh Khian, professeur de sociologie politique à l'université Paris Diderot Paris 7 et chercheur associé au CNRS, auteur de Femmes et pouvoirs en islam aux éditions Michelon. Pierre Razou, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur de Guerre Iran-Irak aux éditions Perrin, et Thierry Coville, chercheur à l'IRIS. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur cette possibilité d'une reprise de négociations, une levée éventuelle des sanctions par les États-Unis, sanctions contre l'Iran. Thierry Coville, votre avis ?
Je crois que, justement, c'est exactement ce qu'a dit Azadeh tout à l'heure, l'environnement politique en interne, il a changé en Iran, à cause justement de la politique américaine. Donc le fait que les radicaux aient de plus en plus de pouvoir, ça change la donne, comment la politique est décidée, même si la diplomatie est toujours là. Donc, compte tenu de leur anti-américanisme, compte tenu de leur méfiance innée dans le pouvoir américain, compte tenu dans le fait qu'il y a eu beaucoup quand même de, il se rend pas compte, mais il y a eu quand même beaucoup d'humiliation, sanctionner le guide après toute cette affaire, le nombre de fois il a dit qu'on allait oblitérer l'Iran, donc tout ça c'est quand même, les Iraniens ils ont pas tendance à oublier comme ça, je sais pas quels sont les peuples qui oublient d'ailleurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que admettons qu'il y ait cette photo, cette image, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Moi je pense qu'ils bougeront jamais, enfin on peut me tromper, mais qu'ils bougeront pas s'il y a pas une réduction des sanctions. Si vous voulez, les Américains, ils peuvent dire, mais on va le faire après. Non, les Iraniens, ils vont bouger s'il y a déjà une réduction des sanctions. Ça, c'est pas franchement sûr, hein, parce que Trump, c'est un peu son acquis de, oui, j'ai affaibli l'Iran. Donc, qu'il accepte de revenir là-dessus, je sens pas trop. Deuxièmement, les Iraniens ne bougeront pas si on leur parle, qu'on leur commence à leur dire, oui, donc on se voit pour renégocier l'accord et puis votre politique régionale pour un Baltique. Jamais. C'est pas question. Donc, ce qu'ils veulent actuellement, et je pense que c'est la politique officielle de l'Iran, en plus, avec ce poids encore plus important des radicaux, c'est baisse des sanctions et on revient dans le cadre de l'accord de 2015. Là, on peut discuter. Trump, c'est pas ce qu'il veut. Trump, il veut montrer que, voilà, j'ai fait quelque chose de mieux, etc. Donc, on est dans cette zone où il y a peut-être des choses qui se passent, mais moi, je pense qu'on est loin de la photo.
Azadeh Khian.
Je suis d'accord. Effectivement, on l'a dit aussi que les sanctions états-uniennes sont les principales entraves devant une quelconque négociation entre l'Iran et les États-Unis. En revanche, je pense que déjà Trump est vraiment imprévisible. Hein. Tout comme il a dit zéro pétrole iranien, il peut dire OK, j'y ai réfléchi et je pense que effectivement, par exemple, on sait que l'Irak, même la Turquie, si officiellement les Turcs ont annoncé ne plus acheter du pétrole iranien, mais on sait que par voie officielle il continue quand même, et les Indiens également, et donc c'est très difficile de dire zéro pétrole, puis les Chinois bien évidemment qui sont là pour continuer à acheter le pétrole iranien, même si on sait qu'ils ont baissé le volume. Donc un acte positif de la part de président Trump pourrait être, bon ok, les Coréens du Sud, les Japonais, etc. peuvent de nouveau, mais de façon limitée, acheter le pétrole iranien. C'est quand même quelque chose qu'il peut faire. Et sans nécessairement avoir levé complètement les sanctions américaines, ça peut être considéré comme un signe positif. D'un autre côté, je suis d'accord avec Pierre Razou et Thierry Coville, mais en même temps, il ne faut pas oublier que quand Rouhani annonce être prêt à négocier à tout moment, et il l'a dit récemment vraiment à maintes reprises, que Zarif l'a répété, sans l'aval du guide, il n'aurait jamais osé dire « on est d'accord, on est prêt à tout moment, lever les sanctions et on y va ». Le guide a toujours joué ce jeu-là, même sur l'accord sur le nucléaire. Il a donné son accord pour que Rouhani et Zarif négocient, mais en même temps, il disait toujours « je ne fais pas confiance aux Américains, je ne fais pas confiance aux Européens » pour ne pas se mettre dans une situation difficile. Et il faut qu'il gère aussi, ne l'oublions pas, ces ultra-conservateurs qui ne sont pas en faveur d'une voie solution négociée nécessairement avec les États-Unis. Donc, le guide est un peu dans cette situation-là. Mais n'oublions pas que la situation économique du pays est de plus en plus désastreuse et qu'il y a quand même une forte pression. Rouhani disait récemment que si l'État iranien continue à vendre au moins 200 000 barils de pétrole par jour, il pourra payer les fonctionnaires. Sinon, il ne pourra pas. Donc, si les sanctions états-uniennes continuent, ça veut dire que effectivement, l'Iran ne pourra même pas vendre peut-être 200 000 barils de pétrole par jour et ça sera vraiment un désastre pour l'économie iranienne. Et puis, c'est pas Instex et quelques 2 millions de volume de troc qui pourra effectivement aider les Iraniens. Donc il y a aussi cette pression économique forte hein, quand même sur le régime islamique d'Iran. Pour ma part, encore une fois, quand je vois Rouhani Zarif qui se disent prêts à négocier, ça veut dire que le guide est derrière.
Pierre Razou.
Oui, je suis d'accord avec Azadeh, c'est sûr. Mmh. Mais en même temps, le guide, comme vous le disiez très justement, il cherche à se couvrir et il veut pas qu'on lui reproche ensuite d'avoir tout lâché. Mmh. Et je crois qu'il est âgé, il est en train quelque part, non pas de préparer sa succession, mais en tout cas certainement de préparer son héritage ou l'image de lui qu'il veut laisser dans l'histoire. Et donc, à la limite, peut-être qu'il peut se dire, après tout, c'est peut-être à moi à endosser une normalisation régionale, même s'il a fallu faire des concessions, etc. Ce que je vois, donc, pour répondre sur deux points, c'est que là où, par exemple, l'Iran peut très bien revenir à la table de négociation en attirant les Américains et Trump dedans, c'est de leur dire, OK, vous revenez dans l'accord nucléaire, mais nous, on améliore l'accord nucléaire, par exemple, au lieu de s'interdire toute activité pendant 15 ans, ben on va vous dire qu'on le fait sur 20 ans ou 25 ans. Et à la limite, là, c'est bingo pour tout le monde, pour les Iraniens, pour les Américains, pour les Européens et pour les Russes et les Chinois, sauf pour les Israéliens. Les Israéliens qui disent, pour nous, il n'en est pas question, parce que nous, en fait, c'est zéro bombe.
Ouais.
Donc là, on revient sur le facteur israélien et le poids du facteur israélien sur la politique américaine, au moment où, à la fois, c'est un peu la course à l'échalote entre Donald Trump, qui vise sa réélection, et en Israël, Benjamin Netanyahou, qui attend impatiemment le 17 septembre pour savoir s'il sera réélu ou pas. Mmh. Et je crois qu'en fait, tout ça risque de se décompter et d'attendre au moins la fin du mois de septembre. Et juste pour terminer, pour dire aussi que, bien sûr, les sanctions économiques portent. Mon impression, c'est que les Iraniens, qui sont de fervents patriotes nationalistes, etc., se disent, nous, on veut être indépendants à tout prix. Et aujourd'hui, la problématique, c'est de se dire que si, pour être indépendant par rapport aux Occidentaux, on en arrive à se mettre dans la main des Chinois et donc, en fait, à perdre notre dépendance, y compris économique par rapport aux Chinois, en fait, on a tout perdu. Donc, la logique des Iraniens en tant que peuple, mais surtout du pouvoir, c'est de se dire comment rester, en fait, à égale distance des Chinois et des Américains, et ça, c'est compliqué.
Alors, puisque vous parliez d'Israël, le Premier ministre Netanyahou, qui est allé assez loin récemment, déclarant que l'attitude actuelle des Européens lui rappelle celle des années 30, il y a probablement en Europe des gens qui ne se réveilleront que lorsque des missiles iraniens tomberont sur le sol européen, il sera trop tard, a-t-il déclaré. Alors, je voudrais qu'on en revienne à ce stade de l'émission sur les Européens, précisément. Vous parliez, Azadeh Khan, de INSTEX, juste pour nos auditeurs, c'est l'acronyme anglais pour instrument de soutien aux échanges commerciaux, qui pour l'instant est une coquille vide. C'est un mécanisme pour éviter que la loi d'extraterritorialité américaine à travers l'utilisation du dollar dans les échanges puisse opérer. On a vu l'Union européenne ouvrir la semaine dernière une représentation diplomatique au Koweït, sa troisième dans la région du Golfe. La Grande-Bretagne qui a envoyé il y a quelques jours un deuxième navire de guerre dans le Golfe. Le président Macron, vous l'avez dit, qui a envoyé un émissaire en Iran. On sent que, côté iranien, il y a des attentes très fortes sur l'Europe. Thierry Coville, est-ce qu'elle est en difficulté, l'Europe, sur cette question-là aussi?
Oui, alors c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je suis plus positif sur l'attitude de l'Union européenne depuis quelque temps, parce que c'est vrai que pendant, je pense que c'était assez désastreux, moi, pour l'Europe, vous dire les choses comme elles sont, pendant donc les États-Unis sortent de l'accord en mai 2018, et quasiment pendant un an, l'Europe n'a pas arrêté de répéter, et même pas le dire officiellement. Ils auraient quand même au moins pu dire, on regrette ou on est en désaccord avec la politique américaine. Et leur façon de dire aux Iraniens, on regrette cette situation, mais rester dans l'accord, c'est bien pour le droit international. C'était presque pathétique, cette faiblesse de l'Europe. Je veux dire, on sait tout l'historique des relations entre l'Europe et les États-Unis, mais enfin, au moins dire qu'ils sortaient de l'accord, c'est eux qui sont à la base de tous les problèmes. Enfin, objectivement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en Iran, mais enfin, ce problème-là, ils en sont à la base. Donc, il faut reconnaître quand même, malheureusement, du côté iranien, il y a toujours cette, vis-à-vis de l'Occident en général, il y a cette idée que les durs, mais il n'y a pas que les durs, il y a en Iran, ils ne comprennent que la force. Et puis, je pense qu'était nouveau avec l'accord de 2015, c'était on fait confiance au droit international, ce que Rouhani appelait le gagnant-gagnant, etc. Et donc, avec l'attitude de l'Europe, il s'est imposé un petit peu l'idée en Iran que finalement, respecter le droit international, l'histoire d'une relation constructive, finalement, c'est bien beau, hein, c'est ce que les radicaux ont dit à Rouhani, mais regardez, il serait peut-être temps de montrer un peu les muscles. Et malheureusement, quelque part, pourquoi l'Europe a réagi? C'est parce que l'Iran a changé de politique. Alors, il y a eu ces incidents dans le Golfe, il y a eu cette sortie graduelle de l'accord. Tout d'un coup, l'Europe se réveille pour la première fois. Alors, dites-moi si je me trompe, je crois que c'est la première fois où ils disent officiellement c'est de la faute des États-Unis. Ils ont été un petit peu longs à la détente. Mais alors moi je trouve positif, c'est effectivement cette implication d'Emmanuel Macron. Alors ce qu'on peut toujours regretter, c'est qu'on est un petit peu l'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis. Je pense qu'on a aussi nos intérêts à défendre. Enfin, les Américains accusent les Iraniens maintenant de chantage nucléaire. Enfin, moi je me rappelle d'un chantage économique bien pragmatique que les Américains nous ont fait. Brian Hook, le représentant Iran du département d'État, il l'a dit. Dites aux entreprises européennes qu'elles ont le choix entre le marché iranien et le marché américain. Donc, moi, je pense que c'est bien, cette implication d'Emmanuel Macron, c'est vraiment bien. Je pense qu'on joue notre rôle. Enfin, on défend le droit international. Si on est là pour dire aux États-Unis de revenir dans l'accord, de lever les sanctions, c'est très bien. Je pense qu'il faut peut-être pas oublier aussi de défendre la souveraineté européenne et de faire pression. Je veux dire, c'est quand même lamentable qu'on n'ait pas été capable de répondre en tant qu'entité politique, qui a une souveraineté, à cette extraterritorialité des sanctions américaines. Et effectivement, cet INSTEC ne répond pas du tout à ça. Et comme par hasard, l'INSTEC se met en place. Bruno Le Maire, on l'entendait dire, ah oui, bah, c'est compliqué de mettre ça en place. Les Américains nous font une énorme pression. Les Iraniens montrent un peu les dents. Comme par hasard, ah ben, l'INSTEC marche. Bon, si vous voulez, on en revient à cette idée que, où est la volonté politique? Alors, je suis tout à fait d'accord que l'Europe s'implique plus. On arrive à faire diminuer les tensions, c'est vraiment ce que tout le monde souhaite. Bon, qu'on défende notre souveraineté, je pense que ce serait mieux quand même.
Azadekian, sur l'Europe?
L'Europe, à mon avis, l'Europe politique n'existe pas. Donc, on ne peut pas demander à quelque chose qui n'existe pas de réagir en tant qu'entité politique. L'Europe politique n'existe pas. D'ailleurs, on voit aussi les Britanniques qui défendent coréam, les positions états-uniennes vis-à-vis de l'Iran, ne serait-ce que pour cet exemple-là. La France n'est pas sur cette position, mais il y a aussi les ex-pays de l'Europe de l'Est qui ont des positions très différentes, etc. Donc, l'Europe politique n'existe pas, l'Europe militaire encore moins. Donc, quelque part... L'Europe n'est pas indépendante des États-Unis, ni sur le plan de la défense, ni d'ailleurs sur d'autres plans. On voit même que l'Europe, enfin l'Europe, la France, qui va imposer les grandes entreprises, le GAFA, c'est ça, en France, et à juste titre, ah bah tout de suite, c'est Trump de nouveau qui réagit en disant « je ne pense pas que ce soit une bonne idée », etc. C'est-à-dire que l'Europe n'a même pas de souveraineté en réalité à l'heure actuelle vis-à-vis des États-Unis, même en ce qui concerne la taxation des grandes entreprises états-uniennes. En France, l'Europe a très, enfin, la France a très aussi mal réagi, je pense, quand la BNP Paribas a été sanctionnée par les États-Unis, le gouvernement français avait réagi. Peut-être que les Américains n'auraient pas osé aller aussi loin que ça. Il faut pas oublier aussi que quand Peugeot Renault ne vend pas en Iran et se retire du marché iranien, ça veut dire à la fois une baisse importante de la vente de ces voitures dans la région d'une part, en Iran aussi, et aussi ça provoque aussi un problème de chômage en France. Donc il est temps, je pense que le cas iranien montre qu'il est vraiment temps à ce que ceux qui restent dans l'Union européenne, c'est-à-dire après Brexit, puissent réellement réfléchir à comment faire face. Et comme disait Thierry Coville, nous en France, on n'a pas les mêmes intérêts que les États-Unis, même pas les mêmes intérêts régionaux en ce qui concerne le Moyen-Orient, la région du Golfe Persique. Donc la France, me semble-t-il, n'a pas encore équilibré sa politique régionale, c'est-à-dire qu'il y a un poids très important, on le voit dans la vente des armements, etc., à l'Arabie Saoudite, ce qui fait que bah, au Quai d'Orsay, au ministère de la Défense, on le voit de loin, j'observe que effectivement l'Arabie Saoudite est considérée comme un pays avec un poids beaucoup plus important que l'Iran, qui ne faisait pas historiquement non plus partie de la préoccupation principale de la France. Alors, je parle de la France parce que la France est quand même, avec l'Allemagne, les deux poids lourds de l'Union européenne. Donc, alors, avec l'intervention du président Macron, je pense qu'on est peut-être sur la bonne voie dans le sens où, au moins au plan diplomatique, la France est en train un petit peu d'essayer de rééquilibrer sa politique.
En guise de conclusion, Pierre Razou, ce rééquilibrage de la politique française dans la région et cette donc médiation diplomatique française, est-ce qu'on peut la voir soutenue par les États-Unis?
Alors oui, en tout cas par Trump, dans le sens où Trump, comme on l'a dit pendant toute l'émission, veut un accord. Donc pour lui, finalement, après tout, si il se dit si ça a une chance de marcher, pourquoi pas. Pour revenir sur ce qu'on disait jusqu'auparavant, je crois qu'il faut rendre grâce quand même au président Macron qui immédiatement a critiqué la sortie par les États-Unis de l'accord. C'est-à-dire la France a été avec l'Allemagne, on a été les deux principaux pays à regretter et à critiquer la sortie américaine. Évidemment, ça s'est pas fait au niveau européen parce que comme Azadeh le faisait très justement remarquer, il y a plein de pays européens qui sont très divisés et qui sont pas sur cette ligne-là. Aujourd'hui, ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, c'est qu'en fait, l'enjeu crucial, c'est de ne pas se retrouver dans la même situation qu'en 2003 avec les États-Unis face à l'Irak, avec cette fois-ci l'Iran en cible prioritaire. C'est-à-dire que tout l'enjeu, on va dire des Européens au sens uni, et donc des Français, du gouvernement français, mais aussi du gouvernement allemand, c'est de se dire comment ne pas braquer les Américains tout en préservant l'essentiel, c'est-à-dire des relations de travail et des relations de négociation avec l'Iran. Et c'est ça qui est crucial. C'est-à-dire, en fait, il faut pas aller vers le tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire, il faut pas arriver dans une situation où demain, Trump mette les Européens au pied du mur en leur disant, maintenant, c'est soit vous nous suivez et on fait à la guerre à l'Iran, soit on va vous massacrer au niveau économique. Donc, le critère, c'est vraiment éviter que la crise de 2003 ne se répète. Et la bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que maintenant, on vient de sortir, un nouveau pôle de direction européen a été élu. On a une nouvelle présidente de la Commission. Donc, en fait, on a une nouvelle équipe. Mmh. Et je pense que cette équipe, maintenant, va avoir à cœur de prendre à bras le corps ces affaires-là et au moins de montrer aux Américains que, justement, non, elle ne se fera pas manipuler de la même manière.
Ce renouvellement, effectivement, à la tête des institutions européennes, Thierry Coville, laisse penser que, et on l'a déjà entendu avec Josep Borrell, l'ancien ministre des Affaires étrangères espagnol, vouloir vraiment montrer les muscles, d'une certaine manière.
Oui, parce que je pense que le dossier iranien, c'est un peu le hasard, mais il a accompagné la construction d'une politique étrangère européenne. Donc c'est pour ça que je suis à la fois d'accord avec Azadeh, qu'effectivement, on connaît tous les problèmes, avoir une véritable entité politique en Europe. Mais d'un autre côté, c'est avec le dossier iranien, toutes ces négociations qui ont commencé effectivement en 2003, où l'Union européenne a trois, qu'on a expliqué, Angleterre, Allemagne et France, avec en liaison avec le reste des membres de l'Union européenne. On négocie avec l'Iran, connaissent très bien l'Iran. Donc c'est pour ça que dans cette crise, il n'y a pas que l'Iran en jeu. Il y a la façon dont l'Europe gère cette crise, défend ses intérêts, défend sa souveraineté, parce que de l'extérieur, c'est pas forcément bonne impression. Je suis d'accord, tout ce qui a été dit, mais on signe quand même cet accord, et ensuite, on est quand même très timide pour le faire respecter le droit international. On n'est même pas capable de faire respecter notre propre souveraineté. Donc
c'est pas l'Europe qui a signé l'accord sur le nucléaire. C'est la France, la Grande-Bretagne
et l'Allemagne.
La France, la Grande-Bretagne qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Allemagne aussi s'était associée. Mais c'est pas l'Europe.
Je suis d'accord avec toi, mais il y avait un accompagnement de Catherine Ashton à l'époque. Je veux dire, c'était quand même très important pour les Européens cet accord. Je suis d'accord avec toi. Donc il y a quand même derrière, il y a la capacité. Puis c'est quand même les Américains ont attaqué les entreprises européennes. Ce chantage était quand même vis-à-vis de l'Europe. Donc, j'espère que ça va changer, qu'on va être capable de mieux défendre notre souveraineté.
Alors, on a assez peu parlé et de la Chine et de la Russie. La Russie, peut-être, Azadeh Khan, quelques mots, qui était aussi signataire de l'accord, au même titre que la Chine.
La Russie actuellement joue un double jeu, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'ils veulent à la fois satisfaire les États-Unis de Trump et à la fois continuer à négocier avec les Iraniens, tout en leur disant que la Russie n'est pas un pompier, donc éteignez le feu vous-même. Ça, c'est un message que les Iraniens, me semble-t-il, ont très bien compris. Et depuis, on voit que l'Iran, effectivement, s'est approché davantage de la Chine. Bon, on connaît les échanges commerciaux, la vente du pétrole de l'Iran à la Chine. Mais même récemment, les Iraniens ont annoncé vouloir attirer de plus de 2 millions de touristes chinois par an en Iran. C'est-à-dire que là, ils misent vraiment sur le soutien commercial de la Chine. Et la Russie s'éloigne de plus en plus, d'autant que sur le dossier syrien, il y a une rivalité, on le sait, entre la Russie et l'Iran.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci Azadeh Khan. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie politique à l'université Paris Diderot Paris 7 et chercheur au CNRS et auteur de Femmes et pouvoirs en islam aux éditions Michelon. Pierre Razou, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire à Paris, auteur de Guerre Iran-Irak aux éditions Perrin pour ce qui nous intéressait aujourd'hui. Et je signale aussi la sortie de Le siècle des As, une autre histoire de l'aviation qui vient de recevoir le prix Guynemer 2019. Et Thierry Coville, chercheur à l'IRIS. C'est la fin de Géopolitique, dont je précise qu'elle était enregistrée mercredi 17 juillet. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons de la démocratie en Afrique. À demain.